Chapitre 10. Grande repentance. Lucette, la tête haute, les joues rouges, les yeux un peu mouillés de larmes qu'elle essayait de retenir, s'en allait traversant la cour et passait devant le petit pavillon où Pierre travaillait avant son mariage. Une femme de chambre en tablier blanc parut au sommet du perron. « Madame, madame » appela-t-elle. « Est-ce que madame s'en va ?» Lucette reconnut Julie, la femme de chambre de madame Gavenard. « Mais oui, Julie, je rentre chez moi. »« Le thé est prêt, madame. Monsieur Royat n'a-t-il pas dit à madame que le thé serait servi pour tout le monde, ici, au pavillon ?»« Non, murmura Lucette, mon mari aura oublié. » Il avait pourtant tout commandé bien soigneusement et il m'a demandé de jeter un coup d'œil sur les fleurs, sur la brioche, sur les gâteaux que madame préfère. Si madame veut entrer un instant et voir si tout est bien, ça devait être une surprise. » Lucette, presque involontairement, l'esprit troublé, monta les marches. La grande pièce carrée, claire et bien chauffée, était égayée par un grand bouquet de chrysanthèmes placé sur la belle nappe blanche au milieu du service à thé de madame Gavenard. Une grosse brioche, des assiettes de petits gâteaux, la bouilloire de cuivre qui fumait, tout avait un aspect joyeux, tout chantait une petite chanson d'invitation amicale. Lucette resta un instant comme figée devant ses préparatifs. Puis une énorme bouffée de repentance subite balaya le vilain nuage de colère qui lui avait obscurci l'esprit. « Mon Pierre, mon pauvre Pierre qui a pensé à tout pour nous offrir une petite fête. Et moi, l'affreuse enfant gâtée, la capricieuse, la boudeuse. » Elle était ainsi, cette Lucette, subite en fâcherie, subite en regret. La même petite fille hautaine, impérieuse, qui avait fait une scène à Pierre le jour de leur première rencontre. Ah, quel caractère, encore si peu discipliné, si susceptible, incapable de supporter même une taquinerie, frappant à droite, à gauche, pour assouvir une sotte petite et courte rancune, meurtrissant l'être le plus cher, et puis s'effondrant dans un abîme de repentir. « Attendez-moi, Eudoxie, » fit-elle d'une voix tremblante. Et, descendant le perron avec précipitation, elle se mit à courir derrière les bâtiments de l'usine pour revenir à l'atelier. La porte était restée ouverte. D'un regard, elle chercha son mari, l'aperçut debout près d'une machine, immobile, le visage triste, le front dans la main. Depuis 5 minutes que Lucette l'avait quitté, il cherchait à retrouver les tours et détours de la conversation qui avait si mal fini. La phrase infortunée qui semblait avoir éclaté comme une bombe « C'est de toi que je me moque, ma chérie !» Comment avait-il pu être assez idiot pour dire cela? Sans doute, tout n'était pas perdu. On se raccommode, mais Lucette était si sensible que même en s'excusant, Pierre pouvait la blesser. Le temps allait être long jusqu'au soir, avec ce poids sur le cœur. Tout à coup, Pierre entendit un pas qui glissait dans le couloir entre les machines. Une petite main, une chère petite main se posa sur la sienne, et c'était Lucette qui disait d'une voix claire, de façon à être bien entendue de Bourgin, de Clément, de Denis. « Mon cher Pierre, si tu étais bien, bien gentil, tu m'offrirais une tasse de thé. » Puis, se haussant, elle lui chuchota dans l'oreille. « Le thé du pardon, veux-tu ? » « De part et d'autre, dit Pierre, j'ai été un rustre. » « Mes amis, poursuivit-il, s'adressant à ses ouvriers, on arrête le moteur et le turbin. Madame Royan nous offre une tasse de thé. Par fil à gauche, au pavillon. » Clément prit le bras des deux ouvriers aveugles et la petite colonne se dirigea en bon ordre vers la collation. Dès que Doxie aperçut Denis, elle accourut, s'empara de lui, s'installa infirmière pour lui servir son thé et le bourra de plus de brioches qu'il n'en voulait. Puis une inspiration saisit la jeune personne. « Madame, me permettrait-elle de réciter une poésie? Ça va bien avec le thé. »« Demandez à monsieur, » fit Lucette interloquée. « Est-ce que vous savez des poésies ?»« Nous serons charmés de vous entendre, » dit Pierre. Madame Royat avait pensé à presque tout pour le goûter, mais elle avait oublié la poésie. Je dirai donc le retour par Lucien Boyer pour les quatre poilus qui sont ici. Madame pourra écouter aussi et Mademoiselle Julie. » Fit Eudoxie avec condescendance. Sans autre préambule, elle commença. La guerre était finie et Dieu, jusque là-haut, entendit des clameurs et des bruits de fanfares. La guerre était finie et Dieu, jusque là-haut, entendit des clameurs et des bruits de fanfares. Seule, la jeune femme et Clément voyaient la pauvre Eudoxie avec son corps grêle et dévié, ses bras maigres aux coudes anguleux. Mais Lucette vit aussi, avec stupéfaction, le petit visage terne qui s'illuminait, les yeux ouverts très grands comme en extase et dont le strabisme avait disparu, des lèvres rouges et arquées qui s'entr'ouvraient sur de belles dents. C'était une Eudoxie poétique et triomphale qui inspirait maintenant un tout autre sentiment que la pitié. Sa fameuse coiffure à cheveux perdus lui faisait un casque noir et brillant, son cou s'allongeait, portant plus fièrement la tête. Les trois auditeurs non-voyants entendaient une voix bizarrement timbrée, tantôt profonde, tantôt montant dans un éclat de cuivre, un bon accent de Savoie qui accentuait les finales, une diction qui ne devait certes rien au conservatoire, qui était seulement nette et vibrante, qui lançait à pleine volée les mots intéressants. « Voilà les hussards, les dragons, voici les artilleurs, les marins !» Eudoxie les voyait et les faisait voir, défilant sous l'arc de triomphe. Tous les anges et les élus penchés au bord des nues, et le brave flambeau leur nommant les régiments un à un. J'ai peur que ce hurrah fasse crouler le ciel. Subitement, Eudoxie changea de ton. La voix se fit basse, mystérieuse. Les hurrahs s'étaient tus. Pourquoi? Puisque maintenant, passé, les hommes des tranchées, les chasseurs, les lignards, les zouaves, les alpins, on eût dit qu'Eudoxie prononçait des mots sacrés, et quand, enfin, elle arriva au dernier vers qui explique le grand silence, tout le peuple muet s'était mis à genoux. Elle le dit presque à voix basse, comme on parle à l'église. Toute seule, à force de naïveté et de sincérité, et avec un instinct de pauvre artiste inculte, Eudoxie avait trouvé l'expression. De ce poème imparfait, plein de chevilles et de rimes maladroites, elle avait fait une chose de beauté, vivante et chaude, comme son propre simple cœur. L'auditoire se tut quelques secondes avant d'applaudir. Bourgin, qui allait beaucoup au théâtre, déclara qu'il avait entendu ce morceau dit par une actrice de l'Odéon et que ce n'était pas, ma foi, moitié si bien. Denis était tellement saisi qu'il ne disait rien du tout. Lucette n'en revenait pas de son Eudoxie, et ce qui l'étonna davantage encore, ce fut le refus de la petite bonne de réciter un autre poème. « Non, dit-elle presque dévotieusement, après ça, il n'y a plus rien, ce serait descendre du ciel. » Alors Denis retrouva la voix pour être de cet avis et pour ajouter d'un ton marqué « Une autre fois, on mettra le retour à la fin du programme. » « Une autre fois ?» « Quand ce sera ?» demanda Eudoxie, se tournant vers Pierre. « Mais quand vous voudrez, une petite soirée de poésie ne fera de mal à personne. Samedi soir, vous irez-il, chacun y mettra du sien. Nous tâcherons d'avoir notre camarade Courtois qui nous chantera sa dernière composition. Tous ceux qui n'ont rien de mieux à faire sont invités. »« Ah, ça me botte !» fit Denis Février. « Quelque chose à vivre pour !» comme disaient les Angliches sur le front quand on annonçait l'attaque pour la nuit d'après. « Vous me raconterez des histoires de la guerre, » stipula Eudoxie. « Je n'en ai jamais entendu à Bellegarde où j'étais en service chez un Turc. Et moi, je raconterai comment Eudoxie m'a sauvé des griffes de ce Turc, » ajouta Pierre. « Vous, patron, pas possible !» s'écrièrent Bourgin et Denis. « Ça serait donc la colombe qui sauva l'aigle, » ajouta Denis. La colombe en question le trouva en cette minute le plus beau des hommes. « Vous en avez de l'esprit, » soupira-t-elle. On se sépara, très contents les uns des autres. Arrivé à la grille de la cour, Eudoxie se retourna encore et agita son mouchoir dans la direction de Février, pour qui ce geste eût été bien perdu, pauvre garçon, si Clément n'eût pris la peine de dire « Elle me secoue son mouchoir, la petite déclameuse. »« À toi, tu crois ça ? T'en as du culot !» protesta Denis. « Si c'est pas à moi, à qui c'est ?»« À moi, peut-être. Elle a été bien gentille pour moi tout le temps. » « Clément, tu es un ami. Là, franchement, comment la trouves-tu ? » « Pas mal, pas mal du tout. Dire qu'elle est jolie, ça non, mais elle vous a un cachet, un piquant, quelque chose enfin. » « Et comme elle récite !» fit Clément pour sortir du chapitre embarrassant. « Est-ce que je suis invité aussi pour samedi, à ton idée ?» C'est certain, nous sommes tous invités, même un gars comme toi qui t'es tiré de la guerre sans y laisser tes abattis. Pas pour t'en faire un reproche. Tiens, comme si c'était ma faute. Ils s'en allèrent bras dessus, bras dessous, et toute la conversation de Février ne fut que sur les charmes de Doxy. Bourgin avait sa femme qui venait le prendre à la sortie de l'atelier, elle travaillait elle-même à l'usine Gavenard. Le retour. Poème de Lucien Boyer, 1919. À mon ami Fernand Le Bailly, lieutenant au 36e de ligne. La guerre était finie, et Dieu, jusque là-haut, parmi les astres d'or brillants comme des phares, entendit des clameurs et des bruits de fanfares et des hurrahs partant de Douvres à Tsingtao. « Quel bruit ? Demanda-t-il, trouble l'azur sans voile ?» « Seigneur, fit une voix dans les célestes chœurs, c'est le grand défilé des alliés vainqueurs qui passe sous l'arc de triomphe de l'étoile. » Un brouhaha courut à travers le ciel pur, la foule des élus, jusque-là stoïque, voulant voir défiler cette armée héroïque, en trombe se presser sur le balcon d'azur. Saint-Pierre, en tortillant sa barbe de prophète, fébrile, trépidant comme un vieux cocardier, cria « « Faites venir Flambeau, le grenadier, il va nous expliquer les détails de la fête. » Et Flambeau s'avança, pimpant comme à Schönbrunn. Il dit « Ça me connaît la gloire militaire, tous ces beaux régiments qui défilent sur terre, je vais vous les nommer, mes seigneurs, un par un. » Les cavaliers passaient avec un bruit de houle. Il annonça « Voilà les hussards, les dragons !» Et les portes du ciel frémirent sur leurs gonds au transport délirant qui montait de la foule. « Ce n'est rien, dit Flambeau, c'est le commencement. Voici les artilleurs. » Dominant les trompettes, des hurrahs si nourris qu'on eût dit des tempêtes soufflèrent en rafale et jusqu'au firmament. « Ce n'est rien, dit Flambeau, vous verrez mieux, j'espère. Ah, voici le génie et les aviateurs. » Dans le vombrissement farouche des moteurs, l'immense voix du peuple assourdit Dieu le Père. Puis Flambeau se penchant annonça « Les marins !» Cette fois, la clameur bouleversa les mondes et le soleil conquis jeta des palmes blondes à ces humbles fêtés comme des souverains. « Ce n'est rien, dit Flambeau d'une voix attendrie, vous allez voir quand va passer l'infanterie. Ce sera formidable, torrentiel. J'ai peur que ce hurrah fasse crouler le ciel. » Et voici que soudain, après ces chevauchées, ils virent s'avancer les hommes des tranchées, les chasseurs, les lignards, les zouaves, les alpins, ceux qui prenaient racine ainsi que des sapins, quand les Minenwerfer déchaînaient leurs bourrasques, c'était un océan de casques et de casques. Mais au lieu des clameurs de victoire, plus rien, le silence. Indigné, Flambeau rugit « Eh bien, ils ont bravé pour vous la mort, la faim, le givre, vous leur devez l'orgueil et le bonheur de vivre, et quand vient le moment de leur ouvrir vos bras, vous vous taisez, Français, vous êtes ingrats !» Mais comme il achevait à peine cette phrase, il regarda la terre et fut rempli d'extase. Dans l'or éclaboussant du couchant radieux, les poilus s'avançaient comme des demi-dieux sur leurs casques de fer plus troués que des cibles, et frémissant devant ces héros impassibles dont le regard altier semblait dire « C'est nous !» Tout le peuple muet s'était mis à genoux.